Kafka écrit « Connais-toi toi-même » ne signifie pas « observe-toi ».« Observe-toi » est le mot du serpent. Cela signifie « transforme-toi en maître de tes actes ». Or, tu l'es déjà. Tu es déjà maître de tes actes. Le mot signifie donc « méconnais-toi », ce qui me semble extrêmement important. « Méconnais-toi », »,« détruis-toi », c'est-à-dire quelque chose de mauvais. Et c'est seulement si l'on se penche très bas que l'on entend aussi ce qu'il a de bon, qui s'exprime ainsi. « Afin de te transformer en celui que tu es ». N'est-ce pas ? La question n'est pas une question psychologique. C'est une question de l'être. Et ce qu'on peut dire dans cette conjoncture, eh bien, c'est que d'une certaine façon, il faut associer Kafka à son judaïsme et il faut associer Kafka à quelque chose qu'il étudie très tôt et qui est la Kabbale, n'est-ce pas ? Associé à une lecture du monde dans laquelle il se trouve, qui est de façon scandaleuse et qui va l'être alors de façon spectaculaire dans les années qui suivent sa mort, n'est-ce pas, dans les 15 ou 20 années qui suivent sa mort, va faire scandale dans le siècle, c'est-à-dire à sa judaïcité. Il apprend l'hébreu, comme vous savez, à la fin de sa vie, associé à sa judaïcité et à une façon de ramener dans la culture occidentale quelque chose que la culture occidentale a évacué continuellement tout au long de son histoire. Donc le grand scandale de Kafka et la grande pression de Kafka, c'est de ramener la culture judaïque dans la culture occidentale et de faire de ce double rapport un monument qui est son œuvre et qui est un monument occidental. C'est une question à la culture occidentale, c'est une question à la chronologie de la culture occidentale. On ne peut pas mettre Kafka dans une chronologie précisément parce que le judaïsme vient faire éclater de l'intérieur cette chronologie, c'est ce que fait Kafka, et la faisant éclater, eh bien, forcément, elle produit du fragment. Alors, ce rapport à la Kabbale est lié à sa biographie, et elle est liée à sa biographie de façon extrêmement concrète, comme son écriture, d'ailleurs, et de façon extrêmement précise, puisque, comme vous savez, Kafka vit de façon très, très douloureuse, je dirais, un conflit familial, c'est-à-dire un conflit entre l'origine de sa mère et l'origine de son père. L'origine de sa mère, qui est rabbinique, n'est-ce pas, qui comporte dans le père de la mère et dans le père du père de la mère de grands rabbins et de grands lecteurs de la Kabbale, et l'origine du père qui est beaucoup plus modeste et beaucoup plus du monde et beaucoup plus de la société contemporaine et du monde contemporain, de la réussite dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut dire que d'une certaine façon, Kafka, dès son enfance, vit sous deux lois. N'est-ce pas ? La loi du père et la loi de la mère, la loi qu'on pourrait dire en quelque sorte quasiment laïque, puisqu'il, dans la lettre à son père, n'est-ce pas ? Dans la célèbre lettre à son père, il va lui reprocher au temple de s'intéresser à tout autre chose qu'à la réalité dans laquelle il se trouve. Donc, la loi du père qui est la loi laïque et la loi des géniteurs de la mère qui est la loi rabbinique.
Qui faisait osciller au hasard les jambes et le tronc du jeûneur. L'artiste alors tolérait tout, sa tête pendait sur sa poitrine, on eût dit qu'elle y avait roulé et qu'elle restait accrochée là mystérieusement. Le corps était tout creux, les jambes se pressaient, un instinct de conservation leur faisait serrer les genoux, mais elle traînait sur le sol, comme si ce n'eût pas été le vrai et que le vrai sol, elles eussent dû le chercher d'abord. Et tout le poids infime, à vrai dire, du corps reposait sur l'une des dames qui, cherchant de l'aide et le souffle pressé, ce n'était pas ainsi qu'elle s'était représentée cette glorieuse mission. Elle commençait par lever le cou, tant qu'elle pouvait, pour préserver le monde.
Comment peut-on aborder aujourd'hui le journal de Kafka ? Qui est à la fois un journal extrêmement intime, métaphysique, qui est aussi le journal d'un écrivain, avec des esquisses de récits, qui est aussi le journal de... C'est une plainte. Est-ce que c'est un journal qui nous touche aujourd'hui ?
Écoutez, moi, c'est un journal qui me bouleverse, en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, lorsqu'on lit le journal de Kafka, que c'est bien le journal de Kafka que l'on lit. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans un ensemble très vaste, n'est-ce pas ? Et qui est indissociable de l'ensemble, qui est absolument indissociable de l'ensemble. Comme lorsqu'on parle de la biographie, il faut bien voir qu'elle est elle-même indissociable de l'ensemble de l'œuvre. L'œuvre forme vraiment un ensemble, une galaxie extrêmement complexe, et c'est à partir de là qu'il faut le lire. C'est-à-dire qu'il faut le lire en renvoyant à la réalité du journal. Or, la réalité du journal, c'est la réalité de ce qui a créé la biographie de Kafka, ce qui a créé les misères de Kafka, de ce qui a créé la souffrance et les angoisses de Kafka, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un écrivain dans le monde qui est le nôtre ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça se constitue ? Quel est le jeu, le réel ? Quel est la joca seria, le jeu sérieux de la littérature dans un monde qui est le nôtre ? Quelle est sa fonction et comment le penser ? Et si vous voulez, je pense que la lecture du journal de Kafka, comme la lecture des romans de Kafka, je pense que ça ne se dissocie pas, n'est-ce pas ? On passe constamment de l'un à l'autre. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux éditeurs du deuxième volume de la Pléiade d'aller chercher dans le journal des éléments qu'ils ont mis dans un contexte de récit et dans un contexte de fable. Des éléments, d'ailleurs, où il est parfois très, très évidemment question de la biographie de Kafka. Il y a des éléments où il est question de cette femme que Kafka devait épouser, qui s'appelle Félice, et qu'on retrouve dans les récits, qu'on met dans les récits. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, ça n'est pas ce geste-là d'extraire du journal des récits pour le mettre à l'intérieur des récits. Il faut au contraire mettre les récits dans le journal, n'est-ce pas ? C'est-à-dire dans la façon qu'a eu Kafka d'écrire quelque chose qui a transcendé, qui a complètement transcendé son existence. Si vous voulez, si on lit le journal de Kafka et si on lit les récits de Kafka, on va se trouver constamment confronté à des constants illogisme de situation, n'est-ce pas ? Que ce soit dans les romans ou que ce soit dans les nouvelles, les situations relèvent très très souvent de caractères tout à fait apparemment illogiques, n'est-ce pas ? Des illogismes. Ça, les rapports entre les personnages, ça cloche, ça ne marche pas. Et lorsque ça marche sur des effets apparemment aberrants, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que cette aberration-là, on la retrouve dans le journal, on la retrouve dans la vie de Kafka et on la retrouve constamment dans le journal. Je dirais que la seule chose qui est logique dans l'œuvre de Kafka, la seule chose qui relève de la logique de Kafka, c'est la mort, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'une chose, aussi bien dans les récits que dans le journal, la seule logique réelle et constante que font apparaître d'ailleurs ces dissonances de récits et ces dissonances de caractères, ces dissonances de dialogue, c'est lorsqu'il y a cette dissonance, ce qui apparaît de l'ordre de la logique réelle et de l'ordre de l'imposition réelle, c'est la mort. C'est la mort qui vient faire trou dans notre logique quotidienne, qui vient faire fragment, qui vient faire journal, qui vient faire même appréciation de l'existence. N'est-ce pas ? La mort vient faire trou. Et forcément, quelque part, cela relève si peu de notre logique que cela semble relever d'une folie. Si vous prenez une nouvelle comme Le Verdict, par exemple, eh bien, il est bien évident que la fin de la nouvelle, c'est-à-dire le moment où le père condamne le fils et lui dit « va te noyer », et où le fils va se noyer, vous avez un glissement logique dans le récit qui précipite l'événement, mais qui le précipite là où l'événement trouve sa réalité, c'est-à-dire dans la mort elle-même, la présence constante de la mort. Et la dernière phrase du verdict, de ce point de vue, est tout à fait superbe, n'est-ce pas ? À ce moment, au moment où le personnage se jette dans l'eau, à ce moment, il y avait sur le pont une circulation littéralement folle. Eh bien, je dirais que c'est à travers cela qu'il faut lire Kafka. Kafka est quelqu'un qui se déplace dans une circulation littéralement folle et qui va aboutir à une folie meurtrière, d'ailleurs, n'est-ce pas ? C'est-à-dire au fascisme et au meurtre de ses sœurs. Il faut lire le journal sur ce fond-là, c'est-à-dire que le journal est de l'ordre du placement d'une écriture et du placement de la littérature et d'une vision superbe et transcendante de la littérature à l'intérieur d'une circulation, de la circulation de la folie.
Il arrivait au jeûneur, surtout dans les derniers temps de son jeûne réglementaire, de répondre par un accès de rage et de se mettre au grand effroi de tout le public à secouer comme une bête les barreaux de sa grille. Dans ces cas-là, l'imprésario avait un châtiment tout prêt et n'hésitait que rarement à l'employer. Il excusait le jeûneur devant toute l'assistance. Il concédait que l'irritabilité provoquée par le jeûne, irritabilité bien facile à comprendre pour des gens comme les spectateurs qui avaient l'estomac garni, pouvait seul excuser l'attitude du champion. Il s'arrangeait ensuite pour parler de l'affirmation de l'artiste qui se déclarait capable de jeûnes beaucoup plus longs et la rapportait aux mêmes causes. Il louait la haute ambition, la bonne volonté, la grande abnégation que contenait cette affirmation, mais il cherchait ensuite à la réfuter, trop facilement, en montrant des photographies qu'il faisait acheter en même temps par le public, sur lesquelles on voyait le champion étendu sur un lit, le 40e jour et presque mort d'inanition. Ce déguisement de la vérité, que l'artiste connaissait bien, mais qui réussissait toujours à le déprimer une fois de plus, dépassait vraiment la mesure. On présentait comme un effet du jeûne ce qui n'était que la conséquence de son interruption prématurée. Comment lutter contre cette incompréhension, contre cet océan d'incompréhension ?
Dans la correspondance avec certaines femmes, je pense à Milena, Otla, Félix, est-ce que Kafka veut rester Kafka ou bien est-ce que Kafka veut devenir femme ?
Le danger constant, c'est la tentation de fixer Kafka quelque part, hors de la littérature, n'est-ce pas ? Or, précisément, tout le débat, tout le combat, c'est précisément de se réaliser en littérature et de donner à la littérature une place que, eh bien, mon Dieu, même aujourd'hui, la société et nous-mêmes avons des difficultés à lui reconnaître, c'est-à-dire une place de vérité transcendante. Alors, si vous voulez, les aventures et les mésaventures biographiques, eh bien, elles sont liées à cet effort considérable que fait Kafka pour réaliser ce qui n'est pas réalisable. C'est-à-dire, si vous voulez, pour réaliser ce qu'il dit quand même dans son journal assez tôt, à savoir que la littérature devienne quelque chose de l'ordre d'une cabale, n'est-ce pas ? De l'ordre d'un nouvel ésotérisme, de l'ordre d'une nouvelle sorte de, si je puis dire, d'une nouvelle sorte de comptabilité. Kafka est quelqu'un qui ne cesse de compter, qui ne cesse d'apprécier et de compter ce qui, de son monde, peut faire vérité. Et bien évidemment, si vous vous engagez dans ce type de comptabilité, et c'est pas très différent aujourd'hui, hein, eh bien, vous allez rencontrer des tas de faux calculs, si je puis dire, vous-même. Eh bien, les faux calculs, les rapports de Kafka avec les femmes qu'il a aimées et avec les femmes qu'il a rencontrées sont de l'ordre de ce faux calcul.
Il avait peut-être des causes profondes, mais qu'il se serait inquiété de les découvrir. Un beau jour, le jeûneur, gâté par les applaudissements de la foule, se vit délaissé du public, avide de folles distractions, qui envahissaient maintenant d'autres salles de spectacle. L'impresario fit encore une tournée forcenée à travers la moitié de l'Europe pour voir s'il ne retrouverait pas, ici ou là, l'ancien intérêt du public.
Mais je ne peux pas dire, je ne crois pas qu'on puisse dire que Kafka soit présent dans ce type d'affaires sexuelles ou sentimentales autrement que comme il est présent dans ses récits, c'est-à-dire autrement que comme un hiatus. Il est à tout moment, dans ses affaires sentimentales, de l'ordre du hiatus. N'est-ce pas ? Ça cloche, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Il va noter dans son journal qu'au fond, Dieu condamne la famille. N'est-ce pas ? Alors que, par ailleurs, l'admiration qu'il porte à son père, c'est d'avoir réussi à fonder une famille, alors que lui-même va être sans cesse préoccupé de ce rapport à la famille, alors qu'il va écrire tout à fait fasciné par des paternités de 11 enfants. Il note, par ailleurs, que Dieu condamne la famille. Et il est dans cette division. Mais c'est de cette division que se constitue son œuvre, comme elle se constitue de ce qu'il assume lui-même, si vous voulez, dans la culture occidentale, la division entre le judaïsme et le christianisme et l'arrivée dans cette culture, et ça c'est la chose à laquelle je tiens le plus, l'arrivée dans cette culture de cet événement considérable qu'est le judaïsme. Et événement si considérable que, comme vous le savez, ça va produire les camps de concentration, l'Allemagne nazie, mais que ça va produire aussi, après-guerre, un événement que nous n'avons toujours pas fini de penser et qui est la constitution de l'État d'Israël. C'est-à-dire, des milliers d'années après, n'est-ce pas, le retour d'un État d'Israël. Ce qui est quand même, dans la traversée de l'Occident, une question à la chronologie tout à fait considérable.
La même aversion s'était développée partout pour le spectacle de la fin. Naturellement, ce phénomène n'avait pu, en réalité, intervenir si brusquement, et l'on se rappelait maintenant, après coup, bien des symptômes précurseurs que, dans l'ivresse du succès, on n'avait pas assez remarqué à leur époque.
Bien, je crois qu'il faut penser le tout à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que le danger, vous souleviez la question du journal, eh bien, si vous voulez, je crois que le danger, c'est à la fois d'ignorer chez Kafka le fragment et de le réduire au fragment. Les femmes qu'il rencontre, ce sont des fragments. Les nouvelles, les romans, ce sont des fragments. Si on se fixe sur le fragment, eh bien, on va avoir de Kafka une vision, même pas fragmentaire, mais tout à fait fausse. C'est-à-dire, on va, au fond, sélectionner ce que l'on souhaite reconnaître dans cette œuvre en excluant le reste. Et à ce moment-là, on peut faire de la psychologie, si vous voulez, on peut même faire de la psychanalyse, on peut produire de la banalité psychanalytique sur l'œuvre de Kafka, qui n'échappe pas pour autant aux problèmes que tout individu, tout homme rencontre dans cet ordre. Mais le problème de Kafka, c'est précisément dans l'ordre du fragment de constituer un ensemble qui transcende le fragment en tant que tel et qui, en tant que transcendant le fragment, vient faire loi ou vient faire commentaire sur la loi et, en tant que tel, s'inscrit comme littérature et comme pensée du fragment.